Vous écoutez
RMC.
RMC, Église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec l'Église d'aujourd'hui, l'émission proposée par le diocèse de Monaco tous les samedis soirs et diffusée sur RMC après l'After Foot. Mon invité de ce soir est un prêtre, un chanteur et un influenceur et il s'appelle Frère Benjamin. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Vous venez de publier chez Artege un livre dont le titre est « Tu as du prix aux yeux de Dieu ». Le voici pour ceux qui nous voient sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Vous racontez dans ce livre votre histoire personnelle. Rien ne vous prédestinait à devenir chrétien. Mais un jour, enfant, il s'est passé quelque chose alors que vous étiez en Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, ma mère est tombée sur un livre qui parle d'un endroit où la Sainte Vierge soi-disant apparaît. Bon, on connaît tous Lourdes, éventuellement Fatima et bien d'autres endroits. Mais là, il s'agissait de Medjugorje. L'avantage, c'est que ce sont des apparitions actuelles. Donc, il y a des équipes de scientifiques avec tout leur matériel moderne qui ont pu se déplacer avec tout un tas d'électrodes, d'appareils pour mesurer l'activité électrique cérébrale et faire bien des expérimentations sur ces enfants. D'ailleurs, en y allant un petit peu, en se frottant les mains, en se disant, on va enfin pouvoir démontrer que tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Et puis, ils se sont cassés le nez, à tel point que même le responsable de cette équipe de scientifiques est devenu chrétien. Et ma mère, elle lit tout ça. Elle se dit, bah ça alors, la Sainte Vierge qui apparaît encore aujourd'hui.
Actuellement.
C'est vraiment actuel. C'était pas il y a je sais pas combien d'années. Et donc, ça l'interpelle. Elle se dit, mais il faut qu'on y aille. Ouais, elle avait appris l'existence de pèlerinage, on s'était renseigné, et puis donc nous sommes allés. Alors, c'est une mère seule avec ses deux enfants. Moi, je suis une famille moderne, hein, décomposée, recomposée, surcomposée, celle-là de composée des frères, des demi-frères, demi-sœurs à droite, à gauche. Et là, à l'époque, nous étions mes deux frères et moi, et donc elle nous propose d'y aller. Alors, l'aîné de 21 ans voulait rien entendre parler de tout ça. Il était
dans son monde.
Voilà,
déjà,
très brillant, hein, tous les ans majeur d'université de médecine de Nice, etc. Donc, plutôt en mode science et foi, c'est pas compatible. Mais celui de 16 ans, et moi-même qui avait 9 ans, pourquoi pas. Et donc nous voilà partis un peu à l'aventure avec une petite voiture à 1400 km de chez nous quand même. La Bosnie-Herzégovine, ça avait fallu traverser l'Italie.
Oui,
chère Italie. et puis, on est arrivé là-bas et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Ça ne m'a paru évident à notre mère et moi. En tout cas, l'autre frère avait commencé déjà, lui, à faire un bonhomme de chemin au niveau de la foi. Mais alors, moi, ça m'est paru évident que Dieu existe, en fait. Jusqu'à présent, je m'y intéressais pas plus que ça. Ça, c'était pas présent dans ma vie. Puis là, à ce moment-là, c'est paru évident.
Après beaucoup d'années, vous êtes devenu prêtre. Vous êtes rentré dans la congrégation des Salésiens de Saint-Jean Bosco. Et vous avez commencé à faire de la musique et à la produire. Et il y a eu aussi, un déclic. Vous avez ressenti une attirance vis-à-vis de la musique, mais pour qu'elle soit au service de quelque chose.
Ah oui, merci d'avoir donné l'opportunité de parler de la musique, parce qu'il y a tellement de choses à aborder. Je suis aussi dans l'éducation.
Vous êtes aussi directeur d'un collège à Giel, en Normandie, n'est-ce pas?
On y viendra si vous voulez, mais pour revenir à la musique... J'ai commencé le piano aussi à 9 ans. Et puis après, j'ai voulu arrêter comme bien des débutants. Et ça, j'aime bien le dire. Et j'en parle dans le livre pour encourager les parents des fois un petit peu à insister auprès de leur enfant lorsqu'ils veulent déjà baisser les bras. Mm-hmm. Donc moi, je voulais baisser les bras au bout de 2 ans. Et puis ma mère insistait.
Vous aviez quel âge à l'époque?
Vers 11 ans. Au bout de 2 ans de piano, je voulais arrêter comme souvent. Hein. Au début, c'est pas trop difficile. Puis après, ça se complique, quoi. Et donc ma mère a insisté, pourtant c'était pas une marâtre, mais là-dessus elle a insisté et j'ai lui si gré, puisque du coup j'ai rencontré un pianiste qui jouait comme un dieu et je me suis dit mais il faut que je joue comme lui, donc je me suis mis à travailler et donc j'ai vraiment fait focus sur le piano. J'ai un peu brûlé les étapes, je fais le conservatoire et puis donc j'ai même pu enseigner le piano aussi, voilà.
Et maintenant en tant que prêtre vous utilisez un peu tous les flèches à votre arc.
Voilà, donc il y avait ce bagage voyage artistique. J'avais même pensé, franchement, en faire ma vie, même si j'étais tiraillé entre prêtre et faire ça.
Parce que vous avez, si je me trompe pas, dans votre livre, vous parlez d'une vocation très, très précoce pour devenir prêtre.
Bah, dès que j'ai découvert le bon Dieu à l'âge de 9 ans, donc, dans ce fameux lieu Medjugorje, j'ai voulu devenir prêtre. Ah oui, tout de suite. Ah, bah, Dieu, quand on découvre Dieu, on a envie de tout lui donner, en fait. C'est aussi simple que ça. Je sais que ça peut paraître incroyable à entendre, mais je vous assure que quand on découvre vraiment qui est Dieu, et on sent qu'il y a en Dieu tout ce qu'il faut pour être heureux et surtout pour rendre heureux. Et du coup, moi, dès que j'ai découvert le bon Dieu, je me suis dit je serai prêtre parce que je veux faire découvrir ce que je viens de découvrir. Voilà. Mm. Bon, je referme la parenthèse. Et pour la musique, j'avais abandonné en me disant d'abord le service de Dieu, puis la musique, on verra. Mm-hmm. Puis finalement, ça m'a rattrapé sans que j'ai eu à insister, à me battre pour la musique a repris une place assez évidente. Et cette fois, comme chanteur, voilà. Et donc parce que j'ai découvert le chant, notamment grâce à l'émission The Voice. Et quand j'ai découvert la beauté de ce qu'on peut faire avec une voix, je me suis dit mais le piano c'est bien, mais la voix c'est fabuleux. Donc j'ai commencé à travailler la voix et le piano ne me sert plus que pour m'accompagner. Et effectivement, j'espère faire un petit album, mais j'ai du mal à trouver et les gens compétents et l'argent quoi pour le faire. Mais bon.
Mais vous ne craignez pas que quand on regarde depuis l'extérieur, par exemple, de groupes de musique chrétienne, de musique de pop louange, on en a parlé aussi ici dans l'église d'aujourd'hui, on a une image de gens un peu comment dire sur une autre planète. Peut-être en français, on dit un peu ravi de la crèche.
Ouais, Qu'est-ce que vous dites à ces gens? J'aime beaucoup le ravi de la crèche, mon personnage préféré. Ça m'a fait beaucoup. ce serait un compliment pour moi. Moi, je me destine pas pour le moment, en tout cas, à faire de la musique chrétienne.
Ouais.
Je fais beaucoup de reprises musicales de chansons françaises. Je chante dans des bars, je chante à qui me demande de chanter, dans la rue, etc. Mon idée, c'est à travers la chanson française, pas spécialement chrétienne, de donner un témoignage chrétien, parce que c'est un prêtre qui chante, qui s'intéresse à la culture de ses contemporains, de ses concitoyens, et qui est là au milieu du monde avec les gens et quelle pas enfermé dans sa
église. Quelle est votre star préférée de la musique française ou internationale?
C'est Brassens qui a bâti ma culture de chansons françaises. Brassens, Brel, à la rigueur Barbara, Yves Duteil. Mais aujourd'hui, j'écoute tout ce qui sort. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'élégance chez Vianney. Et même des beaux textes aussi, et des belles pensées chez des gens comme Soprano. C'est moins du Brassens, c'est autre chose. Mais voilà, donc j'écoute beaucoup de choses et je reprends les petites perles qui m'intéressent dans chacun des...
Parlons maintenant de votre activité sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes très actif. Et d'ailleurs, une des choses qui a attiré mon attention, c'est vos vidéos sur le punchline de
Jésus.
Et vous faites un peu sur plusieurs plateformes, et puis on y reviendra. Mais qu'est-ce que sont ces punchlines?
Oui. Je suis un passionné de la parole de Dieu, du message de l'Évangile. J'ai découvert en faisant un plateau télé que en disant 2-3 phrases en répétant des phrases d'Évangile, les gens étaient bouleversés. Alors je me suis dit mais il faut
par exemple pour faire comprendre à nos auditeurs.
Oui, alors par exemple lors d'une émission à C'est mon choix, et on m'avait demandé si j'étais pas choqué d'être à côté de quelqu'un qui avait eu 500 conquêtes amoureuses, c'était le thème de l'émission. Ouais. Et j'avais dit, mais je suis personne pour juger. Puis j'ai quasiment cité l'Évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Enfin, ouais. C'est des trucs qui sont d'une évidence absolue. Mais en fait, quand j'ai lu les milliers de messages que j'ai reçus après coup sur les réseaux sociaux ou alors en commentaire de la vidéo, qui est encore sur YouTube d'ailleurs, eh bien, je voyais bien que les gens étaient bouleversés par l'état d'esprit que j'exprimais à partir de l'Évangile. Donc je me suis dit, mais l'Évangile, il en est encore hyper attirant, il touche les cœurs, il y a même pas besoin de faire grand chose. Donc, j'avais envie de dénicher à travers ces conférences que je fais tous les vendredis soirs. Je fais tous les vendredis soirs une conférence en live. Mm-hmm. Mais après, je partage le live, ce qui fait que les gens peuvent le réécouter en replay. Et donc, je voulais faire une série sur des phrases un peu choc. Alors oui, un autre exemple peut-être plus parlant. Par exemple, Jésus dit qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que toi t'as une poutre. Ça, c'est un clash, quoi. Ouais. Un clash royal, quoi. J'adore.
Donc, en d'autres termes, évite de critiquer, évite de juger.
C'est bien frappé, quoi. Hein. Ouais. Et donc, voilà, je commente un peu tout ça. Je montre qu'est-ce que Jésus veut dire par là. Et voilà, on s'éclate, on rigole bien.
Mais d'ailleurs, en lisant un petit peu votre livre, j'ai aussi vu que, comme je disais tout à l'heure, c'est un témoignage, c'est une biographie, si on peut dire comme ça, mais vous osez parler de certaines choses qui sont un peu surprenantes dans le monde dans lequel nous vivons. Vous dites, par exemple, que le pardon est toujours possible. Vous parlez de paix intérieure. C'est quelque chose qu'à la fois on trouve assez répandu dans les demandes des gens sur les réseaux, oui. Mais aussi sur dans les demandes du public souvent. Enfin, on a besoin de bien-être, on a besoin. Et finalement, vous dites, il est là.
Ah, absolument. Même le pardon, oui, ça peut être surprenant, mais en fait, on n'est jamais en paix tant qu'on n'est pas dans le pardon. Hein. Mm. Enfin, c'est même une loi psychologique, c'est pas une loi religieuse. Et la paix, le secret de la paix qu'on cherche un peu à droite à gauche. Et dans le livre, j'explique combien en fait c'est tout simplement la connexion avec Dieu qui nous rend notre paix, puisque comme dirait saint Augustin, mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, voilà. En parlant de Dieu.
Mais pourquoi, à votre avis, il y a cette mauvaise image que l'Église ou que les chrétiens en général ont de... Naturellement, nous avons des problèmes dans l'Église qui sont liés, par exemple, aux abus de certaines personnes qui ont vraiment utilisé leur position pour pour faire des pressions ou abuser sur des personnes plus faibles. Mais il y a tout un tas de choses aussi très belles. Pourquoi, à votre avis, on ne réussit pas à se rendre compte de choses aussi simples que vous avez dit?
Dans l'Église, j'espère qu'on s'en rend compte. En dehors, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne sait pas bien le transmettre aussi pour être davantage parlant avec les mots d'aujourd'hui. Moi, si l'Église a se moderniser, c'est pas dans sa morale, c'est plutôt dans la capacité de se faire comprendre. Pour en revenir à des affaires pédophiles, évidemment, qui sont les trucs qui reviennent, les tartes à la crème d'aujourd'hui, maintenant, j'en parle forcément un petit peu dans le bouquin, mais pas trop, parce que on en parle assez comme ça. Dans le bouquin, par contre, je parle beaucoup de la grandeur et de la beauté du sacerdoce, justement pour prendre un peu la tangente et montrer l'incroyable.
On en parle beaucoup, d'ailleurs, en ce moment, parce que on dit que l'Église catholique devrait ouvrir au
mariage
l'ordination des prêtres, des hommes mariés.
Voilà, moi je rentre pas dans ces débats-là en général. Mon rôle, en tout cas dans ce livre, c'est de vraiment montrer la beauté du sacerdoce, à quel point c'est extraordinaire ce qu'on est appelé à vivre. Les gens n'imaginent pas. On est au chevet de la vie des êtres du début, du lever au coucher du soleil de leur vie. On est dans les moments les plus tragiques de leur vie. En tant qu'éducateur, a fortiori, moi qui suis entouré de certains élèves en grande souffrance, de familles en souffrance. Enfin, on fait un travail d'orfèvre avec les cœurs, avec les âmes. C'est extraordinaire.
Et donc, à qui cherche le bien-être, la paix intérieure, etc. Qu'est-ce que vous pourrez conseiller en une phrase,
justement, la prière. Mais on ne trouvera jamais la paix en dehors de la prière. C'est évident. Donc la prière, c'est le lieu, c'est la connexion avec la Wi-Fi du ciel, quoi. On est obsédé de devoir trouver la 4G ou la Wi-Fi à longueur de temps avec nos téléphones, et dès qu'on l'a plus, oh mon Dieu. Si on pouvait avoir le même stress de plus avoir de connexion avec nos téléphones et même plus de batterie, un meilleur exemple encore, la batterie, quoi. Donc voilà, et comment voulez-vous charger une batterie sans la connexion à la seule chose qui soit même de recharger, c'est-à-dire l'amour de Dieu.
Mais comment on peut le faire comprendre, à votre avis? Parce que pourquoi on le comprend pas, on le saisit pas.
Il faut avoir une invitation un peu décomplexée et audacieuse aujourd'hui, où on a un peu toujours peur de parler de religion. Il faut y aller, quoi. D'ailleurs, merci pour cette opportunité de le faire. Parce que après tout, pourquoi les bouddhistes auraient le droit de parler de méditation, les coachs de développement personnel et également de méditation, de je sais pas quoi. Et nous, on peut bien parler de prière. À ce compte-là, si on est ouvert, soyons-le jusqu'au bout. Et donc la prière, c'est vraiment.
Parce que c'est pas une question de prosélytisme, c'est tout simplement.
Oui. Et c'est même un moyen humain pour retrouver la paix. Donc, ce qui est beau, disons quand même ce qui est beau à la différence de la méditation, même si on peut dire je suis aussi un praticien de la méditation, mais c'est qu'on est dans vraiment la prière, ce que j'aime dans le mot prière, c'est qu'on est vraiment dans la notion de relation à Dieu, à un être, quoi, pas à une énergie, pas à un vide, pas à un je ne sais quoi, pas à une idée, pas à un concept, mais vraiment à un être. Voilà. Mais ça, c'est l'appétit vient en mangeant, et il faut parfois un petit peu goûter à la prière pour peu à peu de se rendre compte à quel point elle devient essentielle et indispensable.
Je vous remercie, frère Benjamin. Je rappelle que vous avez écrit le livre « Tu as du prix aux yeux de Dieu », paru chez Arteje. Vous êtes aussi influenceur et chanteur. On peut vous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Vous avez une grande communauté. Et moi, je remercie aussi tous les auditeurs de RMC qui, ce soir, nous ont suivis dans l'église d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain après l'After Foot et sur les réseaux sociaux aussi du diocèse de Monaco. Bonne nuit.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.